Salut à tous et bienvenue encore une fois pour notre podcast hebdomadaire Super Physique. Je suis avec l'incroyable, le fantastique, le miraculeux Julien Vénesson.
Salut Rudy, salut à tous.
Et je suis avec Brice Bourdeau de la team Super Power qui s'est fait abandonner par sa femme ce soir et qui se retrouvait tout seul chez lui, qui est donc venu avec nous ce soir.
Bonjour à tous, voilà, vu que j'étais malheureux, bah, je vous ai rejoint.
Donc voilà, donc, je voulais faire un petit point sur l'actualité du moment vite fait. Donc, nous avons reçu les nouveaux t-shirts Super Physique. Donc, je ne vous dévoile pas encore à quoi ils ressemblent. J'attends, normalement, je vais les recevoir d'ici vendredi ou samedi chez moi. Donc, photo ce week-end. Et donc, bah, j'espère en vente dès lundi ou mardi ou mercredi, on verra. Donc voilà, c'est la première bonne nouvelle. Ensuite, une deuxième actualité. Hier, donc c'est un achat que je ne vous conseille pas. J'ai reçu une pub pour un nouvel e-book en quelque sorte, e-book vidéo de Franco, donc c'est un préparateur physique américain de foot américain surtout. On en a déjà pas mal parlé il y a un peu plus d'un an, quand j'entraînais les mecs justement de foot américain. Et donc j'avais pas mal de DVD de lui, et là il sortait un nouveau truc. Donc j'en ai profité pour l'acheter. Ça s'appelle Power Ooze. Donc je ne vous conseille pas de l'acheter, c'est une calamité. C'est filmé n'importe comment. C'est vraiment filmé à l'arrache. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je comprends pas qu'on puisse vendre ça. Alors, heureusement, c'était autour de $20, donc c'était pas très cher. Mais c'est l'offre de lancement au lieu de 50. Et autant dire que l'e-book, il n'y a pas d'e-book, hein. Il y a deux pages. Il y a deux pages et c'est filmé, donc on nous montre l'échauffement. Donc c'est intéressant quand même. L'échauffement avant une séance de sport. Donc, qui rejoint un peu l'article du site qu'avait fait mon pote Xavier. Donc, l'échauffement du sportif qu'on peut retrouver donc sur le site. Et donc, après, ça montre, je sais pas ce qu'il veut montrer, parce que ça dure 18 minutes, et on voit trois exercices à la con, qu'on a déjà vu 15 000 fois. Donc, voilà, c'est mon conseil du jour, ne pas acheter ce DVD, cet e-book vidéo.
Ah bah oui, là, tu nous as pas donné envie, hein.
Non, bah, faut surtout pas l'acheter, hein. Là, franchement, car heureusement que c'était $20, parce que sinon, je donnais fou. Ah, là, je donnais malade, hein. Enfin bon. Et, j'ai vu que vous êtes pas mal à me demander aussi, concernant l'application Super Physique, donc pour iPhone ou, téléphone Android. Donc, pour l'instant, le projet était un peu en suspens. Donc, je rappelle pourquoi, on avait eu un développeur qui nous avait laissé tomber au dernier moment. Alors qu'on était presque au bout, donc, au final, ça nous a un peu découragé. Et donc, c'est l'occasion, s'il y en a qui sont développeurs dans l'âme, qui sont développeurs d'applications, donc pour Android, pour iPhone, vous pouvez me contacter, après il n'y a pas de souci, on peut s'arranger. Moi j'ai des idées pour l'application, et après il y a moyen de discuter financièrement de la rémunération pour développer l'application. Donc voilà, donc c'est un appel aux développeurs qui seraient intéressés de développer... Super Physique sur téléphone. Donc n'hésitez pas à me contacter. Donc aussi bien sur le forum que sur Facebook, que par email, où vous voulez. Je serai réceptif. Donc Julien, oui, la semaine dernière, tu as éveillé la curiosité de nos auditeurs.
Oui.
Avec le sujet sur les veines. Donc la question originelle était comment peut-on faire pour avoir des veines plus grosses et plus voyantes en quelque sorte.
Voilà, et toi tu nous as expliqué que c'était la fatalité.
On pourrait dire que c'était 80% de génétique.
Non, c'est pas du tout ce que t'as dit.
T'as
dit qu'on pouvait rien faire du tout, que c'était.
Non, j'ai pas dit ça du tout.
Complètement génétique et que.
Non, j'ai dit que l'entraînement jouait et que la sèche jouait.
Ouais, la sèche, c'est vrai que t'as dit que la sèche jouait.
La sèche et un peu l'entraînement. Et que l'entraînement, à force de forcer, ça venait quoi, mais c'était très limité.
Ça, pour la sèche, je pense que pour nos auditeurs, c'est assez évident qu'effectivement, si on est obèse. On risque pas de voir beaucoup les veines.
Eh ben, il y en a quand même que si.
Oui, mais bon, c'est quand même pas, c'est pas vraiment la majorité. Hein.
Eh, j'espère que tu penses pas à moi, Rudy. Hein.
Moi, je dis ça parce que, non, j'ai pas dit ça pour Brice, parce que Brice, on voit quand même ses veines sur les épaules, alors qu'il est pas ça sec. Et il y a justement, suite au truc sur les veines, il y a Fabien de la team que j'avais cité en exemple, qui a encore confirmé ce que je disais, qu'il avait pas beaucoup de veines, le pauvre.
Ouais.
Alors qu'il était sec. Et qui faisait des séries longues aussi.
Alors, ce qu'on peut expliquer, c'est que quand on fait de la muscu, par exemple, quand on est débutant, si on est sédentaire et qu'on se met à faire de la muscu, on va prendre de la masse musculaire, et va aussi y avoir des changements au niveau vasculaire, et notamment au niveau de la capillarité, c'est-à-dire de l'irrigation, on va dire, des muscles, il va y avoir des vaisseaux sanguins qui vont être là pour aller alimenter ces muscles, pour pouvoir amener l'énergie, hein, l'oxygène, et puis les glucides, etc. Donc ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Et la création, en fait, de cette capillarité, de ces vaisseaux, de ces micro-vaisseaux et de ces vaisseaux sanguins, elle dépend d'une hormone qui s'appelle le facteur de croissance endothélial ou de l'endothélium. Et ce facteur de croissance, il est produit sous certaines conditions, et en particulier quand il est dans, quand il y a une hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène. Donc, quand vous faites des séries qui sont un peu plus longues, donc notamment les séries où ça brûle, qu'il y a de l'acide lactique qui s'accumule, donc il y a un manque d'oxygène, à ce moment-là, il y a une libération de ce facteur de croissance qui est plus importante. Donc la capillarité se développe plus facilement dans ce genre d'environnement que quelqu'un, par exemple, qui ferait uniquement de la force. Quelqu'un qui fait uniquement des séries vraiment courtes développe beaucoup son système nerveux, pas forcément beaucoup ses muscles et pas beaucoup sa capillarité. Donc il produit moins de facteurs de croissance endothéliale et puis il va avoir moins de veines. Donc évidemment, tout ça, c'est il y a un facteur génétique qui est assez important parce qu'on a tous remarqué qu'il y avait des gens qui étaient naturellement plus veineux, même sans être très sportif que d'autres.
D'ailleurs, Julien m'a envoyé une photo de son avant-bras tout veineux il y a quelques jours.
Oui, moi je suis naturellement...
Alors je ne sais pas ce qu'il avait fait avant, mais il était tout veineux.
Je suis naturellement plus veineux, et pour ceux qui ont d'ailleurs nutrition de la force, ben, vous pouvez voir que les gens qui sont de type N1 ont facilement plus de tendance à aller produire des veines avec l'entraînement physique, comparativement à ceux qui sont de type N3.
Donc c'est dans le livre Nutrition de la force.
Oui, dans les typages nutritionnels. C'est lié aussi voilà, à tout un ensemble de facteurs génétiques. Et l'entraînement, effectivement, a un rôle là-dessus. Donc, ce qu'on peut dire en définitive, c'est que effectivement la génétique a une part importante, mais en plus de la génétique, si on veut essayer d'augmenter un petit peu la vascularisation, il faut faire des séries dans lesquelles on arrive à produire de la brûlure. Voilà.
Et j'ai oublié, il y avait un nom d'un entraînement en hypoxie, je sais pas si tu as connu à l'époque, c'était déjà là, je crois que c'était le Katsu Training, je sais plus
oui.
Le nom, c'est ça.
Je me rappelle, oui, tout à fait.
Le Katsu Training, donc, qui consistait justement à accentuer donc, cette hypoxie, donc, ouais. En se faisant une sorte de garrot, un garrot contrôlé. Donc, ouais. Il y avait tout un équipement à acheter pour pouvoir se faire une sorte de garrot, et qui permettait justement de s'entraîner en hypoxie, qui montrait autant de résultats en prise de muscles que l'entraînement basique, en mettant de moindres charges, justement, vu qu'il y avait moins de...
Oui, justement, c'était des équipes de chercheurs qui travaillaient là-dessus parce que ils s'intéressaient à essayer d'obtenir du développement musculaire pour les personnes qui ont des problèmes, par exemple, moteurs et qui sont dans l'incapacité d'aller faire de la muscu avec de vraies charges. Et voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant, mais ça ne remplace pas, ça a été un plus ou moins abandonné parce que c'est c'est pas aussi bien que la muscu traditionnelle avec des charges. Néanmoins, c'est vrai que c'est les séries, à partir du moment où il y a de la brûlure, et si on arrive à résister à la brûlure et à la prolonger, il se passe des choses assez intéressantes dans le muscle, donc au niveau facteur de croissance endothéliale, au niveau IGF-1 musculaire, et tout ça, c'est vrai que c'est intéressant.
La règle reste toujours la même, de ne pas se comparer aux autres, et bien regarder par rapport à soi, parce que...
Ah oui, pour les veines.
Ouais.
Et puis au niveau de l'entraînement, là, ça nous rappelle aussi que c'est bien... de ne pas faire que de l'entraînement en séries super courtes pour prendre de la masse musculaire, parce que les séries un peu plus longues, elles amènent des choses, des changements profonds dans le muscle qui sont intéressants.
Merci Julien.
Mais je t'en prie.
Donc, est-ce que tu veux dire que 80% est dû à la génétique et 20% à l'entraînement?
Non, parce que je pourrais pas quantifier le chiffre, j'ai pas de données.
Sans déconner, est-ce que l'utilisation... de compléments vasodilatateurs tels que l'arginine ou la citrulline peuvent aider
Non, pas du tout.
Non, ça va pas rester.
Ça sert à rien, ça va juste effectivement, c'est des produits qui vont sur le moment pendant l'entraînement vont éventuellement accentuer plus ou moins un petit peu la vasodilatation, mais ça va pas avoir d'effet durable et ça va pas permettre
le développement des veines.
Exactement. Ouais, donc pour moi c'est
pas de booster de NO juste pour s'amuser comme d'habitude.
Ouais, pour moi, c'est du folklore.
Ok.
Donc, bon, maintenant, on vous dit, pas de veine pour toi.
Hein. Ah ouais, pas de veine, hein. De toute façon, j'avais bien vu que les veines, elles venaient pas. J'avais bien vu. Puis là, quand même, Brice est avec nous, c'est vrai que Brice, sur les épaules, il a la peau transparente. Donc, il a plein de veines.
Ah, mais même quand j'étais jeune, j'avais déjà les bras super veineux. J'ai toujours été à moitié bleu, quoi. Tellement on voit mes veines, donc.
Oui, mais bon. Après, ouais. Bon, enfin, bah, je crois qu'on a tout dit.
Ouais, ouais, on a bien. Donc, merci Julien pour cette réponse exceptionnelle.
Je t'en prie, Rudy.
Alors, question suivante. Question d'entraînement. Donc, elle est en deux temps. Donc, est-ce que notre progression au développé couché en série de 8-10 répétitions est un bon indicateur de prise de muscle? Car voilà, je dois manger 4 fois par jour. J'essaie de faire une prise de masse contrôlée. Et vu que mon poids ne semble qu'augmenter très faiblement, je me pose la question. Par exemple, peut-on rester à un poids identique tout en changeant le ratio muscle-graisse, en diminuant donc son niveau de graisse, ce qui expliquerait que mon poids augmente peu, mais que je progresse au coucher?
Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué cette question?
Ouais, je vais la résumer rapidement. Alors, est-ce que notre progression au développé couché en série de 8-10 est un bon indicateur de prise de muscle? La réponse est oui. Après, suivant les personnes, ça va travailler plus ou moins de muscles. Donc, en général, donc par exemple, je prends mon exemple, un con. Je suis développé couché. Si je croise un développé couché, bah normalement, je vais prendre des épaules, des pecs et pas trop des triceps. Et toi, Brice, si tu croises un développé couché, tu prends de partout? Ou pareil, t'as un muscle qui prend pas?
Ouais, je prends surtout les pecs, moi. Pecs-triceps.
Pecs-triceps. Donc voilà, suivant les personnes, on va pas prendre exactement pareil, mais c'est quand même un bon indicateur de prise de muscle et de progression, et c'est en général un exercice qui est assez transférable sur tous les exercices de développé, donc soit développé militaire ou développé décliné ou même dips, tout est assez corrélé, donc c'est un bon indicateur de prise de muscle. Et en plus, comme on voit, c'est un exercice qu'on a du mal à faire progresser petit à petit comme le reste des autres exercices. Donc voilà. Et donc la deuxième question, c'était: peut-on rester à un poids identique tout en progressant en quelque sorte? La réponse est oui, mais c'est limité. Donc, avant le podcast, tu donnais un exemple, Brice, tu veux le redonner?
Bah, disons que oui, en fait, c'est vrai qu'on sait pas, le gars qui pose la question, quel est son poids de corps. Donc bon, on peut suggérer qu'il est peut-être pas hyper gros, qu'il fait une prise de masse. Après, c'est sûr que si on prend un gars qui fait 1m80, 100 kg, qui est une andouillette, on va pouvoir rester longtemps au même poids, et progresser au coucher sans grossir, et son ratio va être bon. Après, à partir du moment où le mec commence à un petit peu sec, bon bah c'est sûr que là ça va peut-être progresser, mais ça va quand même freiner fortement si le mec mange pas assez, quoi.
C'est pas mal l'expression d'andouillette.
Ouais,
l'expression d'andouillette. C'est la musique, tu dis popiette, mais l'andouillette c'est pas mal.
Ouais.
J'ai à retenir. Donc ouais, après, donc je sais pas, j'ai oublié qui posait la question, mais oui, donc là, si tu progresses sur tous tes exercices et que ton poids reste stable, j'aurais tendance à dire que oui, tu prends du muscle, comme tu dis, ouais, donc tu prends du muscle en perdant un peu de gras. Après, si c'était toi, bah conseil du jour, je laisserai ma diète comme ça tant que je progresse, et puis dès que je vais commencer à être un peu dur, bah j'augmenterai ma diète pour donner une marge de progression, pour continuer la prise de masse et la progression. Donc voilà. Est-ce que ça répond à la question, Julien?
Tout à fait.
Ou est-ce que tu tries des feuilles encore?
Ah non, je suis hyper concentré là.
Hyper concentré.
J'ai pris des notes. Je prends des notes sur tout.
Eh ben, j'ai une question pour toi justement. Elle te plaît beaucoup. Est-ce que t'es prêt, Julien?
Oui, vas-y.
J'avais fait un régime l'année dernière où j'avais bien perdu. Et je remets ça cette année, malgré mes efforts, je garde toujours une petite bouée. Et récemment, on m'a dit que c'était une bouée laitière, due, comme son nom l'indique, aux produits laitiers. Qu'est-ce que tu en penses? As-tu déjà entendu parler de ce terme?
Non, je n'ai pas entendu parler de la bouée laitière.
Non, je croyais que tu avais une bouée laitière, justement, Julien.
Tu trouves que j'ai une bouée laitière?
Oui.
Il faut dire que c'est vrai que j'ai une taille particulièrement large. Comme
je trouve que t'es vachement blanc. Est-ce que c'est dû aux produits laitiers?
Ouais, c'est possible, peut-être que c'est ça.
Moi, je pense que tu prends des produits laitiers, des carottes.
Bon, en tout cas, non, ça n'existe pas, la bouée laitière. S'il reste du gras, bah, c'est qu'il y a du gras à perdre. Et puis, si c'est localisé sur le ventre, bah, c'est que le régime n'a pas été fait correctement. Donc là, j'ai envie de dire que ce serait le bon moment de lire les articles du site, au moins.
Et mon e-book, Rudy Goya, mes secrets pour sécher.
Voilà. Mais d'abord le site, quand même, parce que c'est gratuit.
Ouais, mais c'est vrai que sur le site, il y a déjà pas mal de trucs.
Ah, en plus, on a quand même fait un article... Enfin, j'ai fait un article sur la graisse abdominale, où je donne pas mal de conseils, en plus de l'alimentation, parce que ça, c'est quand même la base, et on espère que de ce côté-là, il a déjà lu tous les articles, les bouquins, voilà, il est calé sur ce point-là. Et après, il y a des choses importantes au niveau de l'équilibre de certains acides gras, par exemple, pour réussir à éliminer la graisse abdominale, parce que c'est pas normal, en particulier pendant un régime, de se retrouver à la fin de son régime avec une bouée.
C'est qu'en général, on n'est pas à la fin. C'est ce que moi je vois de son avec tous ceux que j'ai coachés, tous mes élèves. Ouais. Je vois bien que qu'il y a la bouée. Ce qu'il y a autour du en bas, en dessous du nombril et sur les côtés, donc les poignées d'amour, c'est ce qui part à la fin de toute façon. Donc c'est que le régime n'est pas vraiment terminé.
Bah, tu vas intervenir là-dessus. Tu vois, bah, on a un collègue de ma femme là qui fait un régime, qui fait d'habitude. 1m70, 79 kilos. Bien, quand même bien gras, quoi. Et là, il en est à 71, donc il a déjà perdu 8. Donc à l'époque, on se dit, bon, quand il va arriver à 110, ça va être pas mal, quoi. Et puis là, concrètement, bah oui, il a encore une boule d'équerre, hein, mais bon, voilà. Il a déjà bien maigri, et c'est vrai que c'est là où c'est dur. On se dit, bon, est-ce qu'on continue ou pas? Et bon, bah, c'est là où il faut arrêter, pas absolument tout, quoi.
Julien, c'est quoi ce bruit?
Alors là, très sérieusement, c'est Akuma qui griffe le fauteuil pour me faire comprendre que c'est lui le maître.
Non mais c'est je vois qui parle Brice, mais c'est vrai que c'est qu'il y a le bas du ventre et tout, et en plus on a remarqué justement avec Brice que plus l'âge avançait et plus on avait du mal à perdre autour de la taille.
Ben ça c'est hormonal. Hein.
Moi j'ai bien remarqué que quand j'avais 18-19 ans, je sais pas pourquoi j'en ai déjà parlé, mais j'avais le ventre mais archi sec quoi, mais facilement. Puis maintenant c'est vraiment j'ai les bras secs et tout, et puis le bide c'est ce qui part à la fin quoi, vraiment. Il faudrait que je descende quoi.
Ouais, ça c'est principalement lié à la baisse du taux de testostérone. Hein.
Ah, pourtant j'ai la pêche. Hein.
Ben... oui, mais il y a quand même, même si ça change pas grand chose au niveau de la libido ou quoi, il y a quand même une différence.
Tout de suite la libido, qui en a parlé?
Non, mais la différence qu'il y a entre à la puberté et après, ça a un impact sur la mobilisation des graisses et en particulier au niveau abdominal, donc. Donc effectivement, mais du coup, ça montre bien aussi pourquoi est-ce que beaucoup d'hommes qui ne sont pas sportifs, qui arrivent à 40 ou 50 ans, se retrouvent vraiment avec un gros bide. Bah, en général, sachant que nous, on se rend compte que c'est pas facile, on comprend que pour un sédentaire, ce soit encore plus dur.
Je pense qu'une fois qu'on a... Enfin, moi, je vois, j'ai fait pas mal de prises de masse quand j'étais plus jeune, un peu trop excessive. Et une fois qu'on a chopé vraiment du gras, bon, à moins de faire une sèche vraiment drastique, après c'est beaucoup plus dur une fois qu'on l'a pris une bonne fois de perdre quoi.
Ouais, ouais. Et puis une fois qu'on l'a perdu, ça revient d'autant plus facilement.
Voilà.
C'est ça. Ouais. C'est que moi je vois bien avant j'étais pas monté aussi haut et maintenant c'est vrai que.
Ça on l'a expliqué hein.
Ouais, on l'a expliqué avec.
Je sais pas si les internautes.
Mais effectivement s'il y a une petite bouée, donc relire l'article de Julien là-dessus sur le site. Lire nos livres respectifs.
Mais surtout le mien, hein, parce que celui de Rudy...
Ouais, bien sûr. 60 témoignages en 3 mois. Hein. Je peux pas le dire, mais... Et c'est pour moi qui l'ai fait. Hein. Donc voilà. Et donc, c'est que le régime n'est pas fini. Hein. Ça n'existe pas une bouée là-dessus.
Non, soit qu'il n'est pas fini, soit qu'il est mal fait, soit... Voilà.
Dans tous les cas, on peut arriver, faut pas être déficit, tout le monde arrive à perdre son bas du ventre.
Ah oui, là, ça c'est sûr.
Au final, hein, avec de la volonté, il n'y a pas de...
Ouais.
On fait des miracles.
En tout cas, la boule laitière, je me rappellerai du terme, c'est bon.
Tu pourras dire ça. Tu diras ça à Rose.
Ouais, t'as pas perdu ta boule laitière.
Alors, question, Julien.
Oui?
Je t'ai entendu.
Oui. Ah bon?
On t'a tous entendu, alors arrête. Sinon, j'attrape Akuma. Alors, entraînement. Donc, les drop sets, qui sont des séries dégressives, donc, sont-elles vraiment utiles pour la masse? Et si oui, comment les placer dans l'entraînement? Sont-elles adaptées pour l'exercice de base ou d'isolation? Donc, ça tombe bien, parce que j'ai fait un article sur les séries dégressives il n'y a pas longtemps, donc sur mon site perso, sur mon blog, donc www.rudicoya.com. Donc, les séries dégressives sont-elles vraiment utiles pour la masse? J'ai envie de dire que ça ne doit pas être la base de l'entraînement. Si vous progressez normalement, donc comme je dis, à chaque entraînement, en planifiant, en faisant des cycles, etc., il n'y a pas trop d'intérêt à faire des séries dégressives. Après, elles peuvent être utiles en cas de points faibles, donc tout comme les supersets dont on a déjà parlé. Donc par exemple, est-ce qu'elles sont donc en dehors d'un point faible? Je vois pas trop l'intérêt de faire des séries dégressives. Hein. Les trucs qu'on entend dire, oui, c'est pour choquer le muscle, nanana, ça c'est de la connerie. L'important, ça reste toujours de progresser. Choquer le muscle, ça s'appelle du vent. Donc, alors, sont-elles adaptées pour l'exercice de base ou d'isolation? J'ai envie de dire que pour l'exercice de base, c'est assez compliqué c'est moins efficace que l'exercice d'isolation, parce qu'on va être limité par les muscles secondaires. Donc par exemple, je fais du développé couché, il y a un moment, bon, je fais 10 reps à 100, je décharge, je fais 10 reps à 70, et je le fais pour les pecs, il y a un moment, c'est les triceps qui vont plus me limiter que les pectoraux. Donc forcément, on perd un peu l'intérêt de la série dégressive en elle-même. C'est pourquoi, normalement, je recommande plutôt, quand on a un poids faible, de faire des supersets post-fatigue. Donc, par exemple, enchaîner un exercice de balle avec un exercice d'isolation. Et donc, série dégressive plutôt utile sur l'exercice d'isolation, donc pour les muscles qui sont des points faibles. Donc, on donne un exemple très simple. J'ai du mal à sentir les pecs. C'est un exemple qui parle à beaucoup. Je me mets à la poulie vis-à-vis, je fais une série de 15, je décharge, je refais 15 reps. Bon, là, on est sûr de rester sur les pecs pendant tout le long. Donc là, il n'y a pas d'interférence avec d'autres muscles. Mais sinon, à part pour un point faible, je pense qu'elles n'ont pas leur place dans l'entraînement et que c'est plutôt une perte de temps. Sachant qu'en plus, ça va ralentir la récupération. Donc, aucun autre intérêt concernant les séries dégressives. Julien, est-ce que tu fais des séries dégressives ?
Oui, quand je m'entraîne, moi je fais des séries dégressives, pas tout le temps, mais j'en fais, ouais. J'en fais justement quand je veux avoir une série longue avec beaucoup de brûlures.
Julien, d'ailleurs, est-ce que tu t'es inscrit au Giga Gym ?
Non, pas encore.
Parce que Julien, nous attendons ton inscription pour débarquer.
Ah bon ? D'accord. Ah oui, tu viendras.
Nous allons venir te filmer à l'entraînement.
Tu vas enfin sortir de ton trou perdu pour venir me voir.
Je viendrai de Krypton, c'est promis.
Ok.
Bon, je pense que ça a répondu. Tu voulais rajouter quelque chose, Brice, là-dessus ?
Bon, non. C'est vrai que moi non plus, je suis pas trop adepte. J'en faisais quand j'étais plus jeune parce que j'étais moins fort, donc les charges étaient plus raisonnables. Maintenant, une fois qu'on commence à avoir un certain niveau, si je commence à faire ça, il va me falloir de
fonds pour donc, tu vas pas faire ça au squat ? 10 à 160, 10 à 120, 10 à 80.
Je vais vomir, voilà. Comme ça sera fait, c'est bien.
Je vais vomir, et puis t'as deux rythmes de courbature, et puis l'entraînement est fini.
Voilà, et puis la semaine d'après, je suis plus. Donc, vraiment pas d'intérêt, quoi.
D'accord. Bon, dernière question pour Julien.
Oui.
Julien, le cliquer sur l'ordinateur.
Oui.
On devrait même cliquer avec la souris.
Putain. Sur les ordinateurs, il y a des souris et ça fait du bruit.
Julien.
Oui.
On sait que la prise de masse n'est pas une pratique bonne pour la santé. Est-elle cancérigène ? Et plus globalement, quels sont les risques santé liés à la prise de masse ?
Logiquement, le fait de provoquer des pics d'insuline exagérés qui se produisent nécessairement au cours d'une prise de masse puisqu'on mange beaucoup plus que nos besoins, contrairement à une prise de muscle dans laquelle on mange un tout petit peu plus de nos besoins, donc au niveau hormonal, c'est
quand même... On différencie la prise de muscle, qui est la bonne façon de faire, de la prise de masse dont on a déjà dit que c'était de la dope.
Oui, et effectivement, quand on mange un tout petit peu plus que ses besoins juste pour progresser, on produit nécessairement moins d'insuline, on a moins de sucre dans le sang qui est mieux utilisé plus facilement. Donc, au niveau hormonal, ça se passe pas comme la prise de masse. Et dans la prise de masse, c'est vrai que les pics d'insuline ont tendance à stimuler la production d'IGF-1 au niveau du foie. Et ça, il semble que ça puisse augmenter le risque de tout type de cancer, en fait, en favorisant la prolifération des cellules cancéreuses qui existent déjà. C'est-à-dire que ça n'est pas cancérigène en soi, mais ça peut accélérer le développement d'un cancer. Donc, c'est un petit peu, pour prendre un exemple stupide et très exagéré, pour essayer de bien comprendre le truc, supposez que vous ayez un cancer demain matin, si vous mangiez abondamment, que vous mettiez votre corps en état de construire du tissu, il est évident que s'il y a un cancer qui est en train de se développer, il va se développer plus vite, que si à l'inverse, vous restreignez au niveau de la nourriture, si vous vous restreignez nécessairement, le corps a moins d'énergie pour fabriquer des nouveaux tissus et donc fabriquer des cellules cancéreuses. Parce que les cellules cancéreuses sont avant tout des cellules. Donc, oui, ça peut être un facteur. Mais c'est pas vraiment le truc le plus préoccupant, je trouve, dans la prise de masse. Hein. On a vu, c'est plutôt le fait qu'on engendre la création de cellules graisseuses qu'on appelle les adipocytes et cette création là elle est irréversible et ça c'est problématique.
Ouais, donc de toute façon on conseille pas de prendre du gras, de toute façon ce gabine est bon pour en rien, de toute façon on l'a bien compris. Ah mais tu vois, bouffer jusqu'à se remplir le bide à exploser,
Tu dis ça avec un air dépité et triste.
Bah ouais, parce que, bah oui, je suis triste. Non, mais parce que. Parce qu'il faut pas se finir le repas avec le ventre explosé. Sinon, tu bouges plus. Et faut pas être, faut faire Sciences Po pour voir que c'est pas bon pour la santé.
Ouais.
Donc je ne reviendrai pas sur un article que j'ai écrit la semaine dernière qui conseille justement de faire ça. Enfin bon. Donc je crois qu'on a fini pour ce soir.
Bah écoute.
On a fait le tour des questions de ce soir. Donc je rappelle que vos questions sont à poser donc exclusivement sur le forum Super Physique, rubrique entraînement. Donc faut pas me les envoyer sur Facebook ou par email parce que je peux pas tout faire. Donc vous les mettez bien, rubrique entraînement sur le forum, donc après on les sélectionne, on les note toutes, et on y répond en rigolant. Donc voilà. Donc maintenant j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute à tous. Julien, au lieu de taper dans le clavier, viens dire au revoir à nos auditeurs.
Au revoir à tous, à la prochaine.
Voilà, donc bonne écoute à tous, et à la semaine prochaine.
Salut Rudy, salut Brice.
Salut.